Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
On va parler de réussite scolaire, ou plutôt d'écart de réussite scolaire entre les filles et les gars. Il y a un tableau de bord truffé de nouvelles statistiques qui a été rendu public hier par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. On peut y voir toutes sortes de données, notamment le taux de décrochage, les postes vacants, les résultats d'examens ministériels, qualité de l'air dans les classes. Tout ça par école. Et c'est un exercice que M. Drainville qualifie de, je cite, « méchant exercice de transparence ». Il espère que cet outil va augmenter la réussite scolaire des élèves et aussi rendre tout le ministère de l'Éducation plus efficace. La députée Marois Risky, aujourd'hui, signe un texte très intéressant sur la réussite scolaire dans le Journal de Montréal, mais c'est un texte qui s'attarde aux garçons, parce que les garçons ont beaucoup plus de difficultés à l'école. On le voit dans les statistiques de diplomation. Et elle est nouvelle maman, qui est maman d'un garçon aussi, donc je pense que ça la préoccupe, pas uniquement comme critique de l'opposition officielle en matière d'éducation. Bonjour, Marois Risky.
Bonjour.
Est-ce que c'est davantage la maman ou davantage la politicienne qui a écrit ce texte-là?
Les deux. Puis j'attends un deuxième garçon, alors probablement les deux. Puis je vais vous dire, j'ai commencé le travail au mois de juin et je pensais que ça allait durer 2 ou 3 mois de recherche, mais j'ai fait plus d'une centaine de demandes d'accès à l'information. Et j'ai aussi fait le portrait global de ce qui se passe à l'extérieur du Québec, partout dans le monde. Puis finalement, ça m'a pris pratiquement 8 mois, donc j'accouche d'un autre travail aujourd'hui. Et demain, je vais plus loin, je parle aussi du cégep et l'université. Donc aujourd'hui, je m'attarde vraiment sur le primaire et le secondaire. Et il y a des données qui sont excessivement troublantes, mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que ce sont des données qui existent quand même au ministère de l'Éducation depuis des décennies, mais qu'il faut gratter pour avoir accès à ces informations-là. Et ça m'a vraiment choqué parce que, par exemple, en 2004, il y avait déjà des articles des médias qui disaient « les garçons sont sous-scolarisés présentement, il y a un écart important et significatif qui est constant ». Mais la réaction du ministère, c'était de dire « calmons-nous, il ne faut pas agir trop vite ».
Et en 2004.
En 2004. Là, on est rendu en 2024. Donc, ça fait 20 ans. Puis, je considère que les écarts sont trop importants pour ne pas en parler. Je vous donne un exemple concret. En 2004, déjà, le ministère savait qu'un garçon qui commence l'école, qui n'a aucun retard, cet enfant-là n'a pas de trouble d'apprentissage, a 47 % de chances de terminer son secondaire à l'intérieur de 5 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Maintenant, quand vous regardez les données du ministère, la donnée là-dessus, sur la diplomation, elle est sur 7 ans, parce que c'est meilleur.
Mais en fait, c'est peut-être... On peut s'obstiner là-dessus. Peut-être que c'est une donnée qui est plus souple, bon, disons ça. Mais quand même à 7 ans, les garçons réussissent encore moins bien que les filles.
Tout à fait. Mais ça ne s'appelle pas un secondaire 7, ça s'appelle un secondaire 5. Et chaque année de retard, ça amène une répercussion financière par la suite. Et quand on regarde, par exemple, le test PISA 2018, ça teste, par exemple...
Un test international.
International. Puis nous, au Québec, on est fiers parce qu'on réussit très, très bien. Mais quand on va décortiquer le rapport correctement, on se rend compte qu'il y a un écart entre les garçons et les filles à l'âge de 15 ans de 30 points. Mais ce 30 points-là équivaut à quoi? À 9 mois de scolarité, soit une année scolaire complète. Et en 2022, on pourrait penser à tort que la situation s'est améliorée, mais dans les faits, c'est que les filles, leur taux à elles a chuté de 20 points. Donc, l'écart s'est résorbé, non pas parce que les gars se sont améliorés, mais parce que les filles, après la pandémie, on peut penser que leur résultat a chuté. Mais ça, il y a des impacts par la suite, parce que chaque fois qu'on regarde qui décroche le plus, ce sont les garçons. Quand on regarde qui sont les HDAA, toute proportion gardée dans tous
les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage.
Oui, mais dans tous les centres de services scolaires, là, pratiquement, c'est encore les garçons qui sont plus représentés. Ce qu'on appelle les bulletins modifiés. Ça, il faut savoir qu'un bulletin modifié, ça veut dire que vous n'avez pas vos notes qui représentent comme les autres élèves dans la classe, mais ça veut aussi dire, puis les gens vont l'apprendre plus tard, qu'il ne pourra pas nécessairement graduer avec un diplôme d'études secondaires. Et dans tous les centres de services scolaires, donc sur les 72, à part 6, c'est toujours plus les garçons que les filles.
OK. Les constats que vous avez faits, ils ont été faits, là, vous dites, là, 2004, le ministère de l'Éducation le savait. Il y a un livre qui a été publié, un livre collectif. J'ai reçu une des autrices
Catherine
ici.
Heck avec Robert Lacroix.
Exactement.
Ça, ça m'a frappé comme un 2x4 en plein visage, ce livre-là.
Boisvert en a fait un long papier dans la presse. Quand on parle de la sous-réussite des garçons à l'école, c'est toujours de façon épisodique. On en parle, puis après ça, on n'en parle plus. C'est pas un dossier qui est récurrent. Si c'était les filles qui avaient des retards semblables par rapport aux garçons, ce serait quoi la réaction de la société, vous pensez?
On la connaît déjà, la réaction. On l'a eue. C'était une bonne réaction. On s'est dit, à l'époque, il y a maintenant plus de 30 ans, qu'il faut faire un rattrapage pour nous, les femmes. Ce qui a été fait. Et ça s'est traduit sur les banquettes universitaires. Et quand on s'est rendu compte que nous, les femmes, on n'était pas en mesure d'accéder au marché du travail, par exemple, parce qu'on avait nos enfants, mais on n'avait pas de place en garderie, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé les CPE. Des garderies subventionnées. On s'est donné les moyens de nos ambitions. Mmh. Moi, je me rappelle, quand j'étais au cégep de Maisonneuve, là, en 2003-2005, j'avais des publicités avec des bourses pour aller étudier en génie. Mais je ne me rappelle pas d'avoir vu des publicités et des bourses pour que les gars aient en éducation et en infirmerie. Je ne me rappelle pas d'avoir vu ces publicités.
Non, mais ça, regardez, ça, quand on est rendu au bout du pipeline d'éducation, il y a peut-être une job à faire pour inciter certains groupes à aller dans certains domaines. Mais quand on a des jeunes, des garçons qui sont sous-scolarisés au secondaire, qu'on n'en parle pas comme ça, ça trahit quoi, d'après vous? C'est-tu une peur de parler des problèmes des gars?
Moi, je pense que c'est un tabou. Quelqu'un qui m'a dit ça aujourd'hui, il dit, Marois, là, tu touches à un tabou. Il dit, ça fait longtemps qu'on en parle.
En quoi c'est un tabou?
Je ne sais pas
pourquoi. On a un groupe de la société
puis moi, je vous dis, je suis féministe.
Qui traîne la patte.
Moi, je suis féministe, puis sincèrement, je ne crois pas qu'on peut continuer d'avancer comme société sans faire quoi que ce soit, puis laisser 50 % de la population là, en arrière de nous, puis pas leur donner tous les moyens de remplir leurs promesses à eux aussi. Puis quelque chose qui m'a vraiment frappée dans le livre justement de Robert Lacroix puis Catherine Heck, ils ont écrit la chose suivante. Quand ils ont testé différents groupes, garçons et filles dès le secondaire, leur capacité à se projeter dans l'avenir, les filles n'ont pas vraiment de difficulté à se voir plus tard, mais les gars, oui. Mais ça, c'est triste de voir que nos jeunes garçons ne sont même pas capables de rêver à plus haut, plus loin. Qu'est-ce qu'on fait? Où sont les modèles?
Tu sais, j'ai regardé, puis honnêtement, là, je pense qu'on a assez critiqué le Parti libéral. Ça fait longtemps qu'il n'est plus au pouvoir, mais quand vous me parlez de 2004, ça faisait un an que le Parti libéral était là. Mm-hmm. Je veux dire, c'est un échec transpartisan. Tous les partis majeurs ont été représentés au gouvernement depuis cette étude-là.
Oh oui, puis la première étude date des années 90, puis 99, mais on pourrait tomber dans le piège de refaire le passé. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire une chose. C'est que je suis très consciente de ces données-là, mais si on ne fait rien, on va juste continuer à se pointer du doigt, puis on n'avancera pas plus.
Madame Risky, je vous connais assez comme étant une personnalité studieuse. Là, vous êtes arrivée avec cette lettre-là, vous avez posé le diagnostic. Les solutions, c'est quoi?
Bon, je sais qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, puis je ne suis pas prétentieuse pour savoir tout ce qu'on doit faire.
Non, non.
Mais là, je ne veux plus de structure, je ne veux plus d'un nouveau comité quelque part, je ne veux surtout pas d'un rapport qui va être tabletté, là, parce que j'ai déjà assez de rapports que j'ai lus qui ont été manifestement rangés dans un petit coin. Je crois que là, effectivement, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on sorte cet enjeu du Parlement. Ça ne se réglera pas au Parlement, c'est un problème de société qu'on a devant nous. Et il y a des vrais experts qui existent, il y a des chercheurs, vous en avez reçus, on en a mentionné tantôt, mais il va falloir que vraiment on tourne toutes les pierres ensemble, puis se donner un vrai échéancier, puis se dire, on l'a fait pour les femmes, il y a eu un rattrapage qui a été un franc succès au Québec. Ça s'est matérialisé sur toutes les banquettes universitaires, on le voit aujourd'hui. Mais là, moi, je vous dis la chose suivante. Les emplois que tout le monde fait référence technique des garçons, là, l'OCDE a déjà dit la chose suivante. Demain, là, pas dans 25 ans, demain, sont appelés à 15 % à disparaître. Et ça va encore précariser qui? Majoritairement des hommes. Alors moi, je voudrais juste qu'on sorte ce dossier-là du Parlement, qu'on se donne un vrai mandat de consultation, aller sur le plancher des vaches, là, et de regarder qu'est-ce qu'on n'a pas fait de correct pour s'assurer que ça soit vraiment un système progressiste pour les garçons, aussi notre système scolaire.
Ça se peut-tu que l'école n'est pas faite pour les gars?
Je pense que c'est une question qui se pose, mais je ne suis pas capable aujourd'hui de l'affirmer. Mmh. Mais il y a plein de petits irritants. Là. Une maman qui m'a écrit tantôt, elle dit, moi, là, mon gars, à 6h10 du matin, quand son autobus est arrivé, ça ne tente pas d'aller à l'école.
Partez-moi pas là-dessus, je vais
alors,
virer fou.
Il y a ça. Il y a d'autres qui me disent, il est surdoué. Il s'ennuie à l'école pour mourir, puis il n'y a pas d'école alternative pour lui.
Moi, je me rappelle de réveiller mon gars à 6h. Pour l'envoyer à l'école, parce qu'il fallait qu'il soit là à une heure X, puis bon, le transport en commun, c'était super long. L'école, l'heure de début d'école, puis ça, c'est pas juste à Montréal, c'est un peu partout, ça dépend beaucoup des autobus.
Oui.
On subordonne le biorhythme de nos ados, par exemple, à des autobus.
Oui, alors
ça
qu'il y a des
quoi
études...
sur l'éducation au Québec,
c'est...
ça?
Fait que c'est pas notre vraie priorité. On se dit entre nous, c'est notre priorité, mais concrètement, je m'excuse, là, on a des constats accablants, mais à chaque fois, lorsqu'on arrive pour réussir quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? Une structure.
OK. Bernard, je l'amène sur un autre terrain. Là. Bernard Drainville a lancé son idée de tableau de bord. Là. Il y a toutes sortes de données. C'était très à la mode, les tableaux de bord au gouvernement ces jours-ci. Et aussi celui d'un palmarès officiel des écoles. Un peu comme l'actualité a fait à une époque, comme le Journal de Montréal fait. C'est-à-dire, on fait le classement des meilleures écoles. Est-ce que c'est une bonne idée?
Moi, c'est ma sixième année comme porte-parole en éducation. Là, puis je vais vous dire qu'il n'y a personne dans le réseau qui m'a déjà demandé un palmarès des écoles. Et d'ailleurs, c'est déjà fait par le Journal de Montréal. Puis qu'est-ce que ça va changer pour le petit gars de Limoilou s'il sait que de son école n'est pas aussi bonne que celle à Sillery? Est-ce que ses parents vont déménager à Sillery? Est-ce que celui qui est à Hochelaga va déménager à Outremont? Moi, je pense pas. Je crois que les vrais enjeux sont encore en train de passer à côté. On se donne un tableau de bord, c'est bien, mais la qualité de l'air, là, je me suis époumonée en parlant de la qualité de l'air. Il n'y a rien qu'à changer. La violence dans les écoles, j'ai monté un dossier épais comme ça sur la violence dans les écoles. Qu'est-ce qui a changé? On m'a présenté un apron avec un plan de match. Pourtant, là, c'est un vrai enjeu qui touche partout. Partout les élèves au Québec. C'est rendu que c'est les parents qui essaient de régler les comptes des autres enfants. C'est grave. Alors moi, j'aime les tableaux de bord, mais ce que j'aime plus, c'est un plan vraiment concret, échéancier, objectif clair, avec des gens qui sont imputables à la fin. Puis peut-être que notre vrai enjeu de société, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde d'imputables aujourd'hui.
Parlons d'imputabilité une seconde. Au début de l'entrevue, vous m'avez dit que pour construire là, votre sortie sur la scolarisation des garçons, votre texte dans le Journal de Montréal, vous avez fait une centaine de demandes d'accès à l'information.
Oui, depuis le mois de juin.
Comment ça se fait que c'est si dur d'avoir des données puis des documents facilement en éducation?
Ben, écoutez, est-ce que c'est normal que ce soit une simple députée? Là? Fait, honnêtement, moi, je n'ai pas des ressources là, grandioses à l'Assemblée nationale. Là. J'ai une recherchiste, allô Florence, mais j'ai dû faire moi-même les demandes. Et oui, ça devrait être publié. Même chose pour les universités. Heureusement, les universités m'ont répondu pour avoir par programme pour les 20 dernières années. D'ailleurs, je sors les données là-dessus demain, toujours dans le Journal de Montréal. Mais non, ce n'est pas normal que ce ne soit pas immédiatement public.
Mais vous avez fait ces demandes-là. Est-ce qu'il y a des demandes que vous avez faites qui ont été refusées?
Non, moi, j'ai vraiment eu un retour de tous les centres de services scolaires. Les 72 m'ont répondu.
Mais quand même,
les universités m'ont répondu.
Mais vous avez quand même dû vous taper sans demande d'accès à l'information.
Non, ça, c'est pas grave. C'est la rentrée de données après ça qui était plus difficile. Là. Après ça, c'est de lire l'information reçue.
OK. Mettez la partisanerie là, de côté une seconde. Bernard Drainville, quand vous le voyez aller, et quand vous pensez à ces 100 demandes d'accès à l'information pour avoir des données, pensez-vous que Bernard Drainville a les données nécessaires pour poser un diagnostic intelligent sur l'état de l'école?
Attendez, là, lui, il est à la tête d'un ministère. Puis moi, là, demain matin, là, si j'étais à la tête de ce ministère, je leur rappellerais le palmarès de l'actualité sur tous les ministères. L'éducation finit avec un E. Et ça, c'est pas normal. Donc, le ministère qui teste le plus de monde au Québec, c'est l'éducation, mais lui, ce ministère-là, ne se teste pas.
Qui décide en éducation? C'est-tu le ministre ou c'est les centres de services scolaires?
J'allais dire que... ça dépend. Honnêtement, je vous donne un exemple. Tantôt, je l'ai écouté, moi, ce matin. Il parle des données sur les centres de services scolaires qui ferment en raison de l'éclipse solaire. Il dit, OK, mais je sais qu'il y en a la moitié qui ferment, d'autres qui ne ferment pas. Et donc, il y en a qui sont capables de s'organiser, d'autres qui ne sont pas capables de s'organiser. Mais la réalité, c'est la suivante. Plusieurs centres de services scolaires ont fait des demandes financières. Ça coûte 500 000 $ équiper nos centres de services scolaires pour avoir des lunettes de protection. Ils n'ont pas reçu ce montant d'argent. Donc, ça va dépendre de qui vous parlez dans le réseau.
Donc, qui décide dans le réseau? C'est-tu le ministre ou c'est les centres de services scolaires?
Ça devrait être les deux. Mais ultimement, il ne faut pas que le ministre ait tous les pouvoirs. Il faut qu'il soit capable aussi d'avoir une contrebalance. Parce que la journée que vous avez un ministre qui décide de tout, là, ça se peut qu'il soit très, très loin de la réalité. Puis ça, moi, je préfère quelqu'un qui est capable d'écouter ce qui se passe sur le terrain, qui pense que tout va bien là, à Québec, dans le complexe, là, en haut, là, 19e étage. Ça commence à être loin des enfants.
Très bien. Merci, Mme Risky.
Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
Si vous avez des enfants, vous le savez, ce n'est pas évident de décider à quel âge on leur donne un écran, que ce soit une tablette, que ce soit un téléphone cellulaire. Si vous avez des ados, à quel âge est-ce qu'on devrait être à l'aise avec le fait qu'ils sont sur des réseaux sociaux? Il y a même des enfants qui sont sur des réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de questions qui se posent là-dessus. J'en ai parlé dans la presse en fin de semaine, j'en ai parlé dans ce micro, vendredi dernier. Il y a aux États-Unis de plus en plus d'études, ici aussi au pays, sur le fait que, savez-vous quoi? le développement des cerveaux des enfants n'est peut-être pas compatible avec les univers virtuels. On va parler de tout ça avec Linda Pagani. Elle est professeure titulaire à l'École de psychoéducation et chercheure au Centre de recherche du CHU-Sainte-Justine de l'Université de Montréal. Professeur Pagani, bonjour.
Bonjour et merci pour le sujet, il est important.
Bien, justement, écoutez, c'est comme si on avait introduit dans nos vies, quand je dis nos vies en général, les adultes aussi, ces écrans-là, ces réseaux-là, sans trop se poser de questions. Maintenant que ça fait, disons, plus d'une décennie que les téléphones intelligents sont dans nos vies, que les réseaux sociaux sont importants dans nos vies, qu'est-ce qu'on sait sur ce que ces patentes-là font au cerveau de nos enfants?
Ah ben, il y a des études qui démontrent que on a des problèmes de mémoire, de travail associés avec les écrans. On a aussi des parties de notre cerveau qui ont ratissé. Il y a des études aux États-Unis qui utilisent l'imagerie cérébrale en lien avec l'utilisation des écrans. Et donc, les enfants, les jeunes en général sont à risque de ça. Puis on a aussi la recherche sur le GPS. Les gens qui utilisent toujours les GPS au lieu de savoir qu'est-ce qui est nord, qu'est-ce qui est sud, de imaginer un peu et mémoriser un peu le trajet, ont des parties du cerveau qui ont ratissé, qui s'occupent de cette chose-là.
Dans le concret, là, qu'est-ce qui est arrivé à la génération qui a vraiment grandi dans le numérique, c'est-à-dire grandi avec des écrans, grandi avec les réseaux sociaux? Comment cette génération-là, qui avait, là, disons, là, l'adolescence, qui avait l'âge de l'adolescence au début des années 2010, comment elle se distingue des générations qui étaient avant?
OK, bien, premièrement, on a une vraie pandémie de problèmes de problèmes émotionnels. La prévalence de problèmes émotionnels, anxiété, tristesse et inattention a doublé depuis quelque temps. Et ce n'est pas la pandémie de coronavirus, c'est vraiment quelque chose qui est apparu tranquillement. On a commencé à se poser des questions vers 2010, puis ça a juste augmenté quand les plateformes de médias sociaux ont vraiment pris d'envergure. On a vu tranquillement une impact proportionnel.
Dites-moi, professeur Pagani, vous êtes une experte de ce domaine-là, l'effet que les écrans peuvent avoir sur les cerveaux de nos enfants. Quel est l'âge recommandé pour donner un téléphone, un écran là, qu'un enfant va transporter dans sa poche, dans son sac à tout moment?
Présentement, le consensus est quelque chose comme pas avant 14 ans. Et le problème avec ça, c'est que pas tous les enfants sont égaux à 14 ans. Donc, il faut vraiment évaluer si l'enfant a un trouble neurodéveloppemental, comme des troubles d'apprentissage, des troubles d'inattention, hyperactivité, ou sur le spectre, il faut considérer qu'il y a un délai dans le développement. Alors, 14 ans, ça veut dire plus 16 ans. Et définitivement, on commence à voir, j'ai beaucoup d'éducatrices, je suis en contact avec beaucoup d'éducatrices à travers le Québec qui disent que les enfants arrivent avec un téléphone en main. Les policiers qui sont sur les routes remarquent souvent que les enfants dans les voitures sont sur tablette ou sur un téléphone des parents. Ça, c'est tout associé avec la myopie, hein? Les yeux d'un enfant ne sont pas prêts à s'adapter aux pixels qui sont des téléphones, des écrans si petits.
Vous me dites 14, peut-être même 16 ans. Est-ce que c'est la responsabilité des familles, des parents ou des États qui devraient réglementer comme on a réglementé d'autres produits?
Ben, on commence à réaliser que les parents doivent être sensibilisés et qu'on doit renforcer ça. Je pense que ça aiderait si le gouvernement prenne une position plus forte là-dessus, parce que, ben, premièrement, je ne comprends pas pourquoi on a encore des enfants qui se promènent, des jeunes qui se promènent dans les écoles, les milieux d'apprentissage avec des éléments de distraction comme un téléphone. On veut que les jeunes se pratiquent depuis qu'ils sont nés, on veut que les jeunes se pratiquent à communiquer, à être des bons communicateurs. Et c'est pas avec des bidules qu'on va faire ça.
Donc, vous êtes d'accord avec l'interdiction du cellulaire à l'école?
Absolument. Absolument. Quelle est l'urgence? Il y a du personnel s'il y a une urgence. On va appeler les parents.
Parce que
s'il y a une urgence.
Les parents vont dire ça des fois. Oui, mais si j'ai une urgence, puis je dois appeler mon enfant.
Oui, mais à donner ce message à un jeune, ça les rend encore plus anxieux. Ça, c'est une génération, c'est les générations Y, Z, Alpha, c'est des générations qu'on a donné des messages qui ne sont pas en sécurité à jouer dehors, ne sont pas en sécurité à utiliser leur propre jugement et marcher à l'école tout seul. Il y a énormément de messages, puis là, on leur donne un téléphone en main en disant s'il y a une urgence. Donc, ça me préoccupe parce que là, ils deviennent des adultes à l'âge majeur qui sont très insécures et très anxieux. Et ça, ça n'augure pas bien. C'est pas une bonne chose, ça.
Merci d'avoir été avec nous, professeur Pagani. Je souhaite une bonne soirée.
Merci à vous et bonne journée.
À la prochaine. Bye. Linda Pagani est professeure titulaire à l'École de psychoéducation, chercheuse au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine de l'Université de Montréal. Des gens qui m'écrivent au 98985 pour me demander où on peut trouver cette entrevue. Là, les gens viennent de joindre dans son entièreté. Bien, ça va être sur notre application.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
J'ai pensé inviter et réunir Pierre Rivelard et Mieke Guerrier, qui est notre collaborateur à l'émission, pour parler de l'utilisation de ce mot-là, du contexte, pourquoi ça les a choqués. Pierre-Yves a fait une sortie à l'émission « Tout le monde en parle » dimanche. Et je suis content de les accueillir. Pierre-Yves, Mieke, salut.
Salut, Patrick.
Salut, Pat.
Je vais commencer avec toi, Pierre-Yves. Okay. On a travaillé ensemble à Deux Hommes en Or. Ouais. Je te vois aller depuis des années. Tu n'as pas souvent pris la parole sur les enjeux de questions raciales.
Ouais.
Et je me demandais pourquoi, dans ce cas-là, quand tu étais à Tout le monde en parle, tu as décidé de prendre quelques minutes pour parler de l'incident.
Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été invité à Tout le monde en parle, non pas pour réagir à cette histoire-là qui a fait beaucoup jaser, qui a pris beaucoup d'ampleur numérique pendant la fin de semaine.
T'étais déjà booké.
Ouais, moi, j'étais booké là depuis deux mois pour aller annoncer que j'étais de retour aux Gémeaux. J'avais fait la première émission de la saison, j'étais comme bien content d'y retourner. Et puis, j'ai vu ça passer en fin de semaine, j'ai vu ça grossir. Je fais, oh mon Dieu, je vais aller voir la vidéo. Puis, tu sais, je suis pas un expert et je suis pas là pour taper sur le gars. Mais il y a quelque chose qui est venu vraiment me chercher, qu'on me prenne pour un imbécile et de penser que mon détecteur de bullshit a les batteries à plat. Tu sais, puis comme je le disais...
Tu parles de la deuxième vidéo.
Oui, exact.
La vidéo d'excuse.
La personne fait une erreur, une bourde. Il y a personne qui l'a forcé à aller se promener dans la forêt ce matin-là et de faire une joke en insinuant cette expression-là. Venez pas me faire croire... Y a-t-il des gens en foresterie qui nous écoutent, des étudiants qui pourraient nous dire combien il y a de boulot au Québec, que tu tombes sur le boulot parmi les boulots au Québec et qu'en plus, eh ben, il est écrit le mot auquel tu faisais référence naïvement. Fait que ça m'a juste fait jumper. Puis je me suis dit, hey, ça gosse beaucoup de monde qui se font prendre pour des caves. Puis j'ai une tribune parce que je suis invité à Tout le monde en parle, ça fait bien. Fait que l'émission s'appelle Tout le monde en parle. Je dis, Guilla, j'en parle parce que ça m'irrite profondément. Puis il y a plein de gens qui n'ont pas l'opportunité d'avoir et le privilège d'avoir une aussi grande tribune. Fait que je me suis dit, j'en parle parce que ça me préoccupe. Puis il y a bien des gens qui pensent comme moi et c'est tout. J'ai pas intellectualisé plus longtemps.
Meeker, toi non plus, tu n'interviens pas à outrance dans ces enjeux-là. Tu l'as déjà dit à mon micro. Souvent, on va m'appeler. Puis on veut que je commente l'incident du jour qui porte sur des relations raciales, puis tu y vas pas. Mm-hmm. Là, t'as fait une vidéo sur Instagram et t'as réagi. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui a fait que t'as décidé de réagir?
Il y a plusieurs choses. Un, c'était tout à fait égoïste de ma part, c'est que moi, j'avais besoin de vider mon sac. C'est que à chaque fois que ça arrive, justement, on nous appelle, les membres de la communauté ou des communautés afrodescendantes dans les médias pour commenter, pour savoir qu'est-ce qu'on en pense et tout. Puis c'était juste ma façon de dire, je suis tanné qu'on me demande à moi. C'est pas moi qui a fait la gaffe, c'est pas moi qui a fait une niaiserie, c'est pas moi qui a fait une vidéo abjecte. On peut-tu l'appeler, lui, appeler ses agents? Là, j'apprends après qu'il n'y en a pas. Appeler son entourage, appeler ses patrons. C'est eux autres qui devraient réagir, c'est pas à moi.
Exact.
Et je suis tanné de répondre pour ces gens-là. Ça, c'est une chose. Puis deuxième chose, comme Pierre-Yves l'a dit, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte aussi de ta responsabilité. Tu te rends compte que toi, tu as un micro, tu as une plateforme. Puis ma plateforme, moi, celle que j'ai utilisée, c'est pas celle des médias traditionnels, c'est celle des médias sociaux. Parce que c'était pour moi, puis c'était dans mon entourage. Puis j'avais le goût d'aller faire mes courses après, l'esprit en paix. Mais ça m'habitait tellement que je me suis dit, je vais me vider le cœur. Puis après ça, ma journée a bien été. J'ai célébré mon anniversaire, c'était le fun. Mais c'est surtout que là, on l'a vu en public. C'est le visage public d'une personne qui a du pouvoir, d'une personne qui a un micro, qui a une plateforme. Et je me dis, pour tous ceux qui n'ont pas cette place-là pour réagir, tous ceux qui, comme moi, dans le passé, dans les médias, tu vis ces choses-là au quotidien ou deux, trois fois dans ton année, puis là, t'es écœuré, t'es tanné, mais il n'y a personne qui t'écoute. Tu le dis à tu tête, non, c'est pas fini, faut parler de ces choses-là. Personne t'entend. Puis là, t'as quelqu'un de visible qui en parle. Ben, il faut qu'il y ait quelqu'un de visible qui réponde aussi. Mm. Puis ça donne que moi, je suis dans cette position-là aujourd'hui.
Je suis curieuse de savoir comment vous réagissez quand vous le voyez, ce mot-là, le mot en haine, surtout de la façon dont il a été utilisé. Parce que je pense que des gens sont peu conscients dans la population de savoir à quel point ça peut être blessant.
Ben, en fait, ce mot-là, je veux dire, il y a une charge. Et je pense que ce débat-là, on l'a eu il y a longtemps. On s'est comme recadré par rapport à ça. Puis on a compris que ça blesse et que ça peut être dénigrant et que c'est un mot qui est chargé d'une histoire et qui peut être offensant pour la communauté noire et afro-descendante. Fait que cette discussion-là, on l'a déjà eue. Alors, c'est comme d'aller le prendre et de jouer avec pour rien. Tu sais, c'est pas... cette personne-là a pas mal répondu à une question. Il a pas été cité hors contexte. Il s'est dit, hey, moi, je m'en vais faire une joke là-dessus. Autant que t'as le droit de le faire, autant que j'ai le droit de dire que c'est irrespectueux.
C'est un mot
qui charge une histoire d'esclavagisme. Pas juste aux États-Unis. Je veux dire, il y a des peuples, des pays qui ont été décimés puis on a chipé des esclaves partout sur la planète. Il y a bien des gens qui ont essayé de s'en sortir puis qui, toute leur vie, ont essayé de les restreindre dans des endroits, de ne pas leur donner les mêmes opportunités. Il y a une histoire très récente de ça en Amérique et ce mot y est attaché clairement. Fait que si... C'est un mot qui est insultant. Fait que si t'as envie de jouer avec, c'est ton droit, mais... Je pense qu'on...
Ça se peut qu'il y a des conséquences.
Puis fais-y face. Puis ceci dit, je rajouterais juste que j'ai rien contre cette personne-là. J'ai rien, là. Toutes les fois que je l'ai croisé, je l'ai trouvé extrêmement gentil et sympathique. Peu importe ce que vous pensez.
Vous aviez même fait une blague au début du gala que t'as animé.
J'ai croisé sa blonde, ses enfants. Je le trouve smart les fois que j'ai eu affaire à lui. Puis peu importe ce qu'on peut lui reprocher dans plein d'autres dossiers, là, je peux te garantir qu'ailleurs, je saute pas de joie parce qu'un de mes confrères a perdu sa job. Là. Hier, j'étais pas bien avec tout ça, mais à un moment donné... Il y a des choses qui nous héritent dans la vie, puis on a le droit de le dire.
Donc, tu confirmes que tu n'as pas fait ça pour animer le chanteur masqué.
mais...
Non, mais tu sais, ça, c'est l'autre bout aussi. Tu sais, je fais une blague pour juste un peu détendre l'atmosphère parce que, tu sais, à un moment donné, faut pas penser que moi, je parle pour que quelqu'un perde sa job. Je m'en fous. Moi, au contraire, je le connais pas. Moi, je le connais de réputation. Qu'il y ait une job ou pas, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que. Après, puis j'avais déjà tout prévu cette séquence-là, là, que éventuellement s'il perd sa job, on va dire c'est le wokisme, c'est la cancel culture, la culture d'annulation. Non, c'est pas ça. Si tu sautes en bas du précipice, tu peux pas, après ça, accuser les gens qui t'ont juste regardé sauter en bas du précipice puis dire « Ah, c'est de votre faute si je suis tombé là-dedans. » Tu as sauté dedans. Le suicide professionnel, il t'appartient. Pis ça, c'est ce que je veux que les gens comprennent aussi. C'est que là, on en parle entre nous autres. On est des gens raisonnables. On comprend la charge de ce mot-là. On comprend tout ça. Mais il faudrait aussi accepter que quand je te dis « Hey, moi, ça me dérange ça. » Puis ça fait 3, 4, 5, 6 fois... 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on dit « Hey, ça va, là, arrêtez là, avec ce mot-là. » Ça se peut qu'à un moment donné, il y ait du monde qui soit un petit peu tanné puis écœuré.
Merci, Mickey. Merci, Pierre-Yves.
Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
16h28, les sondages se suivent et se ressemblent. Ils sont tout aussi désastreux pour le parti de François Legault, la coalition Avenir Québec, dans les intentions de vote. Le plus récent sondage léger qui a été publié dans les médias de Québécois montre que la CAQ obtient 22%. Le Parti québécois, lui, obtient 34 % et donc en territoire majoritaire. Le sondage a été effectué entre les 15 et 18 mars. On va décortiquer tout ça avec le rédacteur en chef de Québec 125. Il est aussi chroniqueur politique à l'actualité, Philippe J. Fournier. Salut, Philippe.
Bonjour, Patrick.
Pas de surprise pour toi dans ce sondage-là, j'imagine.
Pas de grande surprise. Cependant, je dois dire qu'une avance de 17 points chez les francophones pour le Parti québécois, nous n'avions pas vu ça depuis, j'ai envie de dire, plus qu'une décennie. Et donc, évidemment, le sondage que nous avons vu ce matin de Québécois, de Léger pour Québécois, ça suit la tendance des derniers mois, mais on dirait que ça l'accentue aussi. La CAQ de François Legault ne s'en va nulle part. 22 % à l'échelle de la province. Il serait complètement décimé en termes de sièges si une élection avait lieu ce printemps.
Combien de sièges il aurait en vertu de ce sondage-là?
Je suis en train de calculer la projection. Mon ordinateur roule et ça sera publié demain, mais ça serait assurément derrière Québec solidaire, derrière le Parti libéral. Il serait au quatrième rang au Québec avec ce nombre de sièges-là. Un vote réparti, lorsqu'il est élevé, c'est très payant. On l'a vu en 2022 avec la CAQ, mais lorsqu'on commence à baisser, particulièrement avec une autre formation qui a un vote réparti, ça coûte cher en sièges. Donc, un vote efficace, c'est un couteau à double tranchant et la CAQ va être du mauvais côté de l'équation cette fois-ci.
Philippe, je me posais la question à voix haute avec les auditeurs en début d'émission. Quand un parti gouvernemental est à 22 % est-ce qu'il y a des exemples récents là, au Canada où ils ont réussi à faire tourner le vent et à former le gouvernement?
Je dois dire, je suis les sondages partout au Canada depuis plus qu'une dizaine d'années maintenant. Et je n'ai pas vraiment de précédent récent. Ce qui pourrait ressembler le plus, c'est Jason Kenney en Alberta. Il avait remporté une majorité claire à l'Assemblée législative d'Alberta en 2019, mais la pandémie est arrivée. Son parti s'est fracturé. Ils l'ont mis à la porte et finalement, Daniel Smith a pris les rênes et a gagné une autre majorité. Mais vraiment d'un parti qui perd la moitié de ses électeurs en un an et demi à peine, parce que octobre 2022, ça fait pas si longtemps que ça, c'est 18 mois. Je n'ai pas vu une telle chute d'un tel parti au pouvoir depuis que je suis des sondages.
OK. As-tu déjà vu... je m'excuse, la voix est en train de me casser. Est-ce que tu as déjà vu, Philippe, une telle remontée d'un parti comme le Parti québécois qu'on disait quasiment mort après la dernière élection?
Il faudrait retourner à il y a environ 20 ans avec le NPD en Colombie-Britannique. Alors, il n'y a pas beaucoup de précédents. Le NPD avait été réduit à 2 sièges seulement. Ils ont repris le pouvoir une douzaine d'années plus tard. Mais ce qu'on voit au Québec présentement, c'est inusité. Le Parti québécois et son chef, j'avais regardé les chiffres au début de la campagne de 2022, lorsqu'on demandait aux Québécois qui est le meilleur chef de parti pour être premier ministre. Bien, M. Legault obtenait 44 % et M. Paul Saint-Pierre-Plamondon, 4 % Alors, les Québécois ne connaissaient pas beaucoup M. Saint-Pierre-Plamondon. Et là, aujourd'hui, il est le choix numéro un des Québécois. Il a presque... il matche le score de son parti, ce qui n'est pas du tout le cas pour M. Legault, ce qui signifie que M. Legault tire son parti vers le bas présentement.
Parlons des autres partis, Parti libéral, Québec solidaire. Est-ce que ça bouge pour eux?
Québec solidaire, c'est des chiffres intéressants. 18%, je dirais que dans le cadre de Québec solidaire, c'est un bon sondage. On voit Québec solidaire qui maintiendrait ses appuis à Montréal, qui pourrait peut-être faire quelques percées en région, mais c'est encore une fois, il n'y a pas de vague orange. Et pour le Parti libéral, il oscille à 14-15-16 depuis l'élection. Donc, ça n'a pas bougé. La seule bonne nouvelle pour le PLQ, c'est que si une élection avait lieu avec de tels chiffres, il gagnerait plus de sièges que la dernière fois parce que la CAQ a tombé. Donc, par défaut, le PLQ pourrait faire quelques gains. On pense à Laval, on pense à Hull, Châteauguay, des circonscriptions où le Parti québécois n'est probablement pas le favori, même avec les chiffres actuels.
Philippe, déjà, M. Legault là, commence à agiter l'épouvantail d'un référendum de la souveraineté, comme s'il était un chef libéral pour analyser les scores de ce sondage. La souveraineté, est-ce qu'elle devient plus populaire à mesure que PSPP devient plus populaire?
C'est intéressant de suivre les chiffres. Évidemment, on a eu des chiffres un peu divergents. On a eu Palace Data qui avait la souveraineté à 40 %. Mais si on regarde la progression des sondages légers depuis un an, ça a passé entre 34 et 38 % et présentement, c'est à 36 %. Alors, il n'y a pas de corrélation directe entre la montée du Parti québécois et la montée de l'option souverainiste, même si elle demeure quand même forte. Alors, je dois le dire, et je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas contents d'entendre ça, mais le Parti québécois, présentement, n'a pas créé plus de souverainistes, mais il sait les rapatrier des autres partis. On voit une baisse de l'option souverainiste chez les électeurs des autres partis. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont déjà retournés dans la colonne du PQ.
OK, explique-moi les bonnes pratiques en matière de statistiques. Là, on est à 53 % des répondants qui disent... Je suis contre l'idée d'un Québec souverain. 36 % en faveur, 11 % d'indécis. Comment on les répartit dans les deux camps?
Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de précédent récent. C'est difficile de prendre les chiffres de 94-95 et de les appliquer en 2024 parce qu'on ne sait pas si les mêmes règles s'appliquent. Cependant, en général, si vous êtes indécis à la question de la souveraineté, c'est que vous n'êtes pas souverainiste. Vous pourriez peut-être le devenir, mais pour l'instant, vous ne l'êtes pas. Alors, je pense que une pratique courante serait de prendre peut-être les deux tiers ou les trois quarts des indécis et de les mettre dans la colonne du non. Mais évidemment, je fais très attention ici, ça prendrait des recherches plus avancées et des sondages spécifiques à propos de cette tranche-là d'indécis. Il y a, oubliez pas, une génération complète qui n'ont jamais voté sur référendum. Il y a bien des adultes aujourd'hui qui n'étaient pas nés en 95. Alors, le contexte, évidemment, a changé depuis.
Philippe, toujours un plaisir. Merci beaucoup. On va lire tes analyses demain sur Québec 125.
Merci beaucoup, Patrick. Bonne journée.
Salut.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Vous le savez, Paul Arcand va quitter la barre de l'émission du matin à la fin de cette saison. Donc ça a entraîné tout un branle-bas de combat, un remaniement de toute la grille ou presque de la station que vous écoutez, le 98.5 FM. Et vous le savez, je vais quitter la barre de cette émission parce que j'ai eu la bulle au cerveau quand j'ai accepté de remplacer Paul Arcand. Et le midi, c'est Luc Ferrandez et Nathalie qui vont composer un nouveau duo d'animation, Marie-Ève Tremblay de 10h à midi. Restait donc la dernière pièce du puzzle à placer. Et c'est pas un hasard si je vous fais cette annonce dans la chronique de Philippe Quentin. Je vais laisser le plaisir à Julie-Christine Gagnon de révéler officiellement qui va me remplacer à partir du 12 août prochain.
Oui, alors on se casse la tête parfois, hein, et les meilleurs se trouvent parmi nous. Alors, la direction choisit quelqu'un que les auditeurs aiment, que les auditeurs réclament, même j'oserais dire, qui est en plein dans l'ADN du 98.5, un journaliste brillant, un être humain d'exception, Et il s'agit de Philippe Quentin.
Bravo.
Bien, merci beaucoup. Bravo.
Merci beaucoup. On est 60 en studio.
Merci beaucoup, Julie-Christine. C'est super gentil de ta part. Merci, Patrick. Je veux remercier aussi Pierre Martineau, notre vice-président ici à Cogeco. Écoute, quand Julie-Christine et Pierre m'ont fait la job, ça fait déjà longtemps. Tenir le secret pendant tout ce temps-là a été très difficile, pendant plus de 4 mois. J'ai réfléchi combien de temps, Julie-Christine? À peu près une demi-seconde, je pense. Je pense pas que je me suis rendu à une seconde. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, parfait, ça a été réglé. J'étais vraiment, vraiment heureux. Je suis devenu très ému. Je suis d'ailleurs au moment où je vous parle. Pour moi, c'est une chance extraordinaire de travailler d'abord dans un environnement fantastique avec une équipe extraordinaire, des gens fantastiques. Ça fait longtemps que je collabore au 98.5. Et tu sais, tu parles de l'ADN, Julie-Christine, puis je pense que je me suis imprégné peu à peu de cet ADN du 98.5. Et pour ça, il y a des personnes qui m'ont aidé. Puis je veux prendre un moment pour les remercier parce que oui, il y a les gens en onde, mais il y a des gens qui sont derrière, en régie. Et si c'était pas de ces gens-là qui m'ont aidé tout au quand j'ai commencé à animer, à remplacer, c'est des gros bateaux à mener, l'émission du midi, l'émission du retour à la maison. D'abord, l'équipe de recherche, Maryse Duchesneau, Alexandra Pouliot, Jessica Leblanc, François Arnois. François, je travaille avec lui depuis que j'ai commencé au 98.5 en 2011. Ils ont toujours été là pour moi. Je ne peux pas oublier les gens à la mise en onde. La première fois que j'ai animé des choses, c'était Jean-Christophe Ouellette qui était là en régie, qui m'a donné confiance. Larry Dufresne, bien sûr. Maxime Pépaquette aussi, avec qui généralement fait cette émission. Il n'est pas là aujourd'hui. J'en profite pour saluer Mario Gélanglois, avec qui j'ai animé aussi beaucoup de shows. Puis Julie-Christine, Pierre, bien sûr. Puis je veux remercier aussi deux autres personnes. D'abord, Catherine. On fait combien d'années qu'on travaille ensemble?
5 ans.
Oui. On s'est toujours super bien entendu. Oui. On a toujours une excellente complicité en ondes, hors d'ondes aussi. Puis continuer de travailler avec toi, ça va être vraiment un plaisir absolument extraordinaire.
Fait qu'on vient de dire que
j'espère t'accepter. Moi, j'ai signé.
Bon, ben, ça va être un immense plaisir. Puis c'est vrai, on a commencé à travailler ensemble au début. Tu faisais les sports. Moi, je t'ai vu grandir, Philippe, là-dedans. Je t'ai vu évoluer, de passer des sports à reporter COVID et par la suite, tu as tenu ce point d'opinion que tu tiens à tous les jours à 17h15, ben, tu sais, moi, je t'ai vu grandir, fait que c'est la continuité, fait que bravo.
Ben, merci beaucoup, puis ben, évidemment, Patrick, je veux te remercier. Patrick, tu m'as toujours fait confiance dans ton show, tu m'as fait confiance pour les différentes chroniques, je me souviens encore, puis je pense qu'on va juste raconter l'anecdote aux gens. Je faisais, oui, les sports à tes débuts, j'ai commencé avec toi, et puis quand la COVID est arrivée, tout à coup, tu m'as appelé un soir pour te dire, regarde, il n'y en aura plus de sport, tout est annulé pour un bout, tu vas parler de COVID à partir de maintenant. Puis c'est là comme ça que ça a commencé.
Philippe, ce que je t'avais dit là, quand la COVID a frappé et que tout a été annulé, le sport a été annulé, moi, je l'avais déjà dit aux anciens patrons. Parce que quand je te voulais au sport, je disais, écoutez, Philippe, c'est un journaliste à la base. Il connaît les sports. Puis ce que j'aime de Philippe Quentin, c'est qu'il va me parler des sports, mais il va aussi me parler des sports dans un contexte social, politique, économique. Et c'est ce que tu as fait pendant 2 ans, avant que MC Gilles arrive quand tu es parti. Et je leur avais dit, puis savez-vous quoi? Si un 11 septembre, il y a quelque chose comme ça, Philippe va enlever son chapeau de gars de sport et il va nous feeder pendant l'émission, nous nourrir de ce qui se passe en temps réel parce que c'est un journaliste. Et c'est ce que tu as fait pendant la COVID, je m'en souviens. Tu es un journaliste à la base. Donc, moi, j'ai aucun doute que ça va bien aller pour toi. Et Julie-Christine disait... des fois, les gens qu'on veut sont sous notre nez. Hein? Et je me souviens, quand Luc Ferrandez est parti pour aller animer l'émission du midi, là, on se demandait qui va le remplacer. T'sais? Puis on n'avait pas tant de temps que ça. On a fait des listes, etc. Puis ça prend quand même des outils qui sont assez précis. Il faut que tu connaisses l'actualité, tu sois capable de rebondir sur plein de sujets. Et c'est à la recherche Jessica Leblanc qui a dit à un moment donné, ben, Philippe Quentin. Et là, ça a été comme si j'avais vu Jésus au bout d'un couloir. Je me suis dit, ben oui, Philippe peut faire tout ça et tu le fais avec brio. Et je pense que ça a donné, disons, ça a envoyé le signal au patron que tu étais la personne toute désignée pour ça.
Mais je vais ajouter un truc aussi parce que moi, MC, Gilles et moi étions là la première fois que tu as remplacé à l'émission.
Oui.
Puis j'imagine, MC, que tu te souviens de cette journée.
Oui, oui, bien sûr, c'était spécial.
Tu sais, puis tu étais nerveux. Puis je trouve que c'est ça qui a été la continuité. C'est justement quand tu as pris le premier remplacement, puis que tu as continué après à remplacer. Moi, j'ai trouvé que ça, cette étape-là était vraiment importante. Tu l'avais bien fait. Je me souviens de l'après aussi. La bière qu'on a bu après.
Mais, la bière du soulagement.
La bière du soulagement, mais tu sais, ça a continué à évoluer. C'est ça qui est le fun.
Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, ça a toujours été pour moi un thrill extraordinaire. Là, quand à 15h ou à midi, quand j'entends ce midi, quand la petite lumière rouge s'allume pour montrer qu'on est en onde, c'est une énergie absolument incroyable.
Donc, Catherine va être là.
Oui.
Dave, Eric, MC Gilles
tout
va avoir une place dans cette
tout
émission
à fait.
MC aussi.
MC sera là tous les jours et ça, je suis très, très content parce que j'apprécie beaucoup Dave. Son humour me fait rire. Il me fait rire à tous les jours. Il m'a surtout fait rire hier quand tout à coup MC t'a appelé Philippe. Et là, ouais. MC a enchaîné du coup d'or. J'ai peut-être un don de voyance.
C'est sortir d'un trou de boîte, hein, MC?
Sixième sens.
C'est ça.
Et
exactement.
Aussi, t'auras un autre complice.
Oui, tout à fait.
Je te laisse le soin de l'annoncer.
Ben oui, c'est avec beaucoup de plaisir et je pense qu'il est là aussi, Pierre-Yves McSwing qui sera là. Salut Pierre-Yves.
Salut Philippe.
Alors Pierre-Yves ben, va être là pendant toute l'émission ben, à compter du 12 août.
Attends une minute, félicitations Pierre-Yves.
Ben oui, félicitations. Ben,
merci.
Oui. Alors Pierre-Yves sera là durant toute l'émission et ça fait, je pense, un certain moment que Pierre-Yves avait indiqué qu'il voulait élargir un peu son spectre au 98.5. Alors on est habitué de l'entendre sur la chronique économique, la chronique financière. Pierre-Yves va continuer sa chronique économique et financière, mais il m'accompagnera avec Catherine tout au long de l'émission aussi. Alors, les trois ensemble, je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Pierre-Yves, je suis super content de te dire ben, bienvenue dans l'équipe.
Bienvenue.
Merci. Puis, en fait, je sais que Patrick t'a comparé à Jésus.
il est allé dans l'hyperbole un peu.
Mais la coupe de Jésus, c'est moi qui l'a. Philippe, moi, je dirais, comme tu es un gars de sport, je te comparais plus à Mario Roberge. Je ne sais pas si tu viens de Mario Roberge. C'était un joueur-entraîneur. Alors, Philippe, à l'animation, je te vois un peu comme ça, un joueur-entraîneur. C'est le gars d'expérience journalistique, mais qui, en plus, nous passe la POC tout en nous aidant à naviguer dans ce monde-là. Donc, j'aime mieux Mario Roberge que Jésus. C'est plus proche de moi.
Philippe, bonne chance.
Merci, Patrick.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.